Voilà, donc bienvenue. Nous poursuivons notre cycle Les grands écrivains face à Dieu. Et ce soir, donc vous le savez, Dostoïevski. Je ne sais pas combien parmi vous sont allés voir le dernier film de Woody Allen, vous me voyez venir, qui s'appelle Un homme irrationnel, traduisez un prof de philo. Et dans ce dernier opus de Woody Allen, donc le fameux prof de philo débarque dans les amphis et dit à ses élèves, à ses étudiants, surtout ses étudiantes d'ailleurs, que les philosophes n'ont rien compris à l'homme, que la philosophie c'est de la masturbation de concepts, que le seul qui a compris quelque chose c'est Dostoïevski. Et la suite du film c'est comment ce professeur va s'identifier au héros de Crime et Châtiment, pour son plus grand malheur d'ailleurs, mais je ne divulgue pas le... évidemment le film c'est pas le sujet du jour. Je me permettrai, à côté d'Woody Allen, de citer un propos un tout petit peu plus élégant, celui de Henri de Lubac. Henri de Lubac est un grand intellectuel qui, en 1945, a publié « Le drame de l'humanisme athée », un magnifique livre qui explore l'aventure de l'athéisme contemporain à partir de Feuerbach, Marx, Nietzsche surtout, pour montrer comment l'athéisme contemporain n'est pas un athéisme à proprement parler au nom de la raison, mais un athéisme de la volonté. Ce qui est insupportable à celui qui se dit athée, c'est de penser que sa liberté puisse être précédée par une autre liberté. Et donc Henri de Lubac explore cette aventure de l'athéisme pour en montrer les difficultés et éventuellement la grandeur. Et puis dans la troisième partie de son livre, il montre comment l'homme qui a tout annoncé et qui a en même temps tout vécu dans sa propre âme, c'est Dostoïevski, hein, qui a traversé l'épreuve de l'athéisme et qui en est sorti en quelque sorte victorieux. Je cite Henri de Lubac, « Dostoïevski est un prophète, oui, parce qu'il n'a pas seulement découvert à l'homme ses abîmes, mais il lui en a en quelque sorte ouvert de nouveaux. » Parce qu'en lui, la crise de notre monde moderne s'est concentrée comme en une cime aiguë, réduite à son essence, et parce qu'une solution s'y est esquissée, nuée lumineuse pour notre marche dans le désert. Dostoïevski est peut-être un prophète, il n'est en tout cas pas un saint, je le dis pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Comme homme, il fut sans doute un très grand pécheur, je n'insiste pas. Mais comme artiste, il fut avant tout un visionnaire. Il n'est pas un philosophe, il n'est pas quelqu'un qui conceptualise, hein, qui produit des raisonnements et des démonstrations. Il est quelqu'un qui saisit, comme tout artiste, hein, intuitivement, le drame de l'histoire humaine. Sa manière de le saisir, ce drame, histoire personnelle, histoire collective, c'est de le saisir du point de vue de l'absolu. D'où le caractère très radical de cette œuvre, la radicalité de ces personnages qui sont toujours dans l'incandescence. Pour ceux qui ont fréquenté un peu cette œuvre, ce sont toujours des personnages incandescents. Son influence sur des auteurs croyants est évidente. On peut penser à toute la philosophie russe du XXe siècle, Berdiaev, Soloviev, et jusqu'à Solzhenitsyn, qui n'est pas philosophe lui non plus, qui est romancier. Mais Dostoïevski a une influence au moins aussi grande sur des auteurs athées. Il est bon de le signaler. Je citerai par exemple André Gide, qui a écrit un Dostoïevski. Je citerai évidemment Nietzsche, qui a été bouleversé par la lecture de L'homme souterrain, un ouvrage que j'évoquerai tout à l'heure. Et je citerai surtout Camus, hein, Camus qui n'a jamais caché sa fascination, son admiration, sa passion pour Dostoïevski. Camus qui évoque les problématiques dostoïevskiennes dans L'homme révolté, dans le mythe de Sisyphe surtout. Et Camus qui achève son œuvre par la transcription théâtrale du grand roman de Dostoïevski, Les possédés. On ne le sait pas trop, mais la dernière œuvre avec La Chute, c'est Les possédés mis pour le théâtre. Voilà. Je vous donne quelques repères biographiques pour situer Dostoïevski dans son siècle, mais sans trop m'attarder. Dostoïevski donc est né en 1821 et mort en 1881. C'est donc le plein 19e siècle russe, siècle d'évolution, siècle de pénétration des influences européennes, hein, des idées des Lumières, mais aussi du socialisme utopique qui pénètre la culture russe. Hein. Culture russe qui va être fortement clivée entre deux grands courants. Si vous voulez, le courant, on va dire, traditionnaliste, qu'on appelle slavophile, hein, qui se méfie beaucoup de ses influences occidentales, et puis le courant progressiste, qu'on va appeler occidentaliste. On pourrait découper la vie de Dostoïevski en trois grandes périodes. Une première période jusqu'à ses 27 ans, jusqu'à la fameuse année 1849. Bon, je ne détaille pas, il va, après avoir fait l'école d'ingénieur militaire, il va quitter l'armée et devenir romancier, écrire quelques œuvres qui vont être déjà remarquées, notamment Les pauvres gens, Le double, Les nuits blanches. Et puis, à ce moment-là, donc vers ses 27 ans, Dostoïevski fréquente une espèce de mouvement, de groupe, groupuscule, socialisant, de plus en plus révolutionnaire. Et ce groupe va être dénoncé. Les jeunes gens vont être incarcérés, alors qu'à vrai dire, la Russie ne courait pas grand risque avec eux. Quoi qu'il en soit, la police du tsar ne plaisante pas. Et au bout de quelques mois d'incarcération, ces jeunes gens vont être condamnés à mort. Dostoïevski est quelqu'un qui a été condamné à mort. Il s'agit en fait d'une fausse condamnation, c'est-à-dire qu'au moment de passer devant le peloton d'exécution, on leur a dit que par grâce du tsar, ils étaient donc graciés et qu'ils s'en tiraient avec 8 ans de travaux forcés au bagne, 8 ans qui vont être convertis finalement en 4 ans pour lui. Ces 4 années en Sibérie vont être d'une extrême rudesse, hein, mais vont correspondre à une évolution intellectuelle, spirituelle, radicale, un vrai bouleversement. Sa vie est coupée en deux, hein, littéralement. Dostoïevski découvre, au contact des forçats, l'âme du peuple russe. Il lit la Bible et progressivement substitue à ses idées socialistes une sorte de messianisme de la terre russe, du peuple russe, assorti d'un mépris croissant pour les influences occidentales. Une troisième période s'ouvre donc quelques 8 ans plus tard, lorsqu'il quitte la Sibérie, où entre-temps il avait réintégré l'armée, et ça va être la période de ses grandes œuvres, et là je vais très vite. Il publie tour à tour ses plus grands chefs-d'œuvre, donc, et je saute directement en 1864, donc il a déjà 43 ans, il publie Le sous-sol, il publie ensuite à 44 ans Crime et châtiment, Le joueur, L'idiot, Les possédés, qu'on devrait traduire par les démons, et un peu plus tard, donc, l'adolescent, et surtout en 1880, donc l'année précédant sa mort, Les frères Karamazov, hein, le sommet de cette œuvre. Pour bien comprendre que pour Dostoïevski, la foi et l'athéisme, c'est une aventure, et c'est une unique aventure, je vous lis l'extrait bien connu de cette lettre, hein, où il se confie à l'une de ses correspondantes. Et vous avez cet extrait sous les yeux. Je suis un enfant du siècle, enfant de l'incroyance et du doute, jusqu'à ce jour, et même, je le sais, jusqu'au tombeau. Quel affreux tourment m'a coûté et me coûte encore cette soif de croire, qui est d'autant plus forte dans mon âme que je connais plus d'arguments contraires. Dieu m'envoie parfois des minutes où je suis parfaitement calme. En ces minutes, j'aime et je sens que je suis aimé des autres. En ces minutes, je me suis composé un symbole de la foi, où tout est clair et sacré pour moi. Ce symbole est fort simple, le voici. Croire qu'il n'y a rien de plus beau, de plus profond, de plus sympathique, de plus raisonnable que le Christ, et que non seulement il n'y a rien de semblable, mais je me dis avec un amour jaloux que cela ne saurait exister. Cette profession de foi, vous le voyez, elle résume un cheminement sans cesse reconduit, hein, jamais vraiment acquis, entre la tentation de l'athéisme et la foi pure. Dans cette œuvre de Dostoïevski, si vous la connaissez un peu, vous le sentez, il n'y a rien de didactique. Hein, ça n'est pas une œuvre édifiante, hein, très loin de là. C'est une œuvre tourmentée. Hein. Chaque personnage est un personnage contradictoire, en proie à des tensions, à des déchirements, à des ambiguïtés. Chaque personnage est un conflit d'idées. Pour prendre même le héros le plus positif de Dostoïevski, Alyosha, hein, le personnage des frères Karamazov, eh bien, Les frères Karamazov, excusez du peu, hein, énorme roman, n'était dans l'intention de l'auteur que la première partie d'un roman plus vaste où, dans la deuxième partie, Alyosha perdait la foi et puis la retrouvait finalement. Pour vous dire donc cette ambivalence, cette dialectique hein, à laquelle sont soumis tous les personnages de Dostoïevski. Cette ambivalence, elle est, du point de vue romanesque, elle se traduit par un phénomène très particulier qui est le phénomène du dédoublement. Le thème du double, Dostoïevski a écrit une nouvelle, un roman qui s'appelle Le Double, est une clé. En fait, les personnages sont tous des personnages en proie à des dédoublements. Dédoublements intérieurs, comme chez, par exemple, Raskolnikov, qui, après avoir tué la vieille usurière, est sujet à des hallucinations, à des états d'absence. Les personnages de Dostoïevski sont toujours entre deux mondes. On ne sait jamais exactement dans quel monde ils se situent. Il y a toujours un monde parallèle dans lequel ils évoluent. Mais aussi des jeux de dédoublement entre deux personnages. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont miroirs l'un de l'autre. Les exemples ne manquent pas. Prenons Ivan Karamazov, dans Les Frères Karamazov. Donc Ivan, c'est l'un des fils du vieux Karamazov qui a été assassiné. Et Ivan détestait son père. Mais Ivan n'avait certainement pas le courage de tuer son père lui-même. Et donc, il endoctrine son valet, Smerdiakov, en lui disant, tu sais, Dieu n'existe pas, et si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et Smerdiakov n'est pas idiot. Il a compris la leçon, il assassine le vieux. Et donc, en fait, on comprend que Smerdiakov est le double, le dédoublement, le bras armé d'Ivan, qui d'ailleurs, à la fin du roman, va venir s'accuser du meurtre de son père. Et le pire, c'est qu'on va le prendre pour fou. Voilà, donc vous voyez ce jeu de dédoublement en miroir. Bref, cette dialectique entre la foi et l'athéisme, elle déchire tous les personnages de Dostoïevski parce qu'elle déchire Dostoïevski lui-même. Et on peut voir cette œuvre comme une sorte de traversée de la nuit, une sorte d'exorcisme spirituel pour expulser un à un tous ces démons qui peuplent cette œuvre et qui peuplent l'artiste. Et ce que je vous propose maintenant, c'est justement un petit parcours, une petite descente aux enfers, si on peut dire, dans les cercles concentriques de l'enfer, pour passer en revue quelques grandes figures de ces personnages athées, de ces quelques grandes figures de cet athéisme, qui paradoxalement, quand on sera descendu au cœur de l'enfer, eh bien c'est là qu'on trouvera la lumière, parce que ça, c'est typiquement dostoïevskien. Il faut faire tout le trajet du mal, à travers le mal, pour découvrir le salut. Voilà, il y aura quatre parties quatre cercles concentriques, dans cette descente dans l'enfer de la négation. Et je vais donc aborder la première forme d'athéisme. Cette première forme d'athéisme, je l'appelle, et j'en rassemble plusieurs en fait sous le même chapeau, je l'appelle l'athéisme rationaliste, ou l'athéisme, disons, idéologique, qui se subdivise lui-même en une première version qui est la version scientifique. L'athéisme scientifique, c'est une chose qui aujourd'hui ne nous parle plus beaucoup, mais qui au XIXe siècle était très prégnante. Elle vient de l'Occident, elle vient de cette religion de la science qu'on appelait en France le scientisme ou le positivisme, très en vogue chez nous, et qui va pénétrer et influencer les auteurs russes. Dostoïevski l'évoque dans différents romans, mais c'est surtout dans ce fameux premier chef-d'œuvre qui s'appelle Le Sous-sol ou qui s'appelle Les Écrits du Souterrain que cette religion de la science apparaît. Alors qu'est-ce que c'est que cette religion de la science? Dostoïevski l'appelle le palais de cristal. Vous savez, c'est comme la perfection des mathématiques, c'est un palais de cristal. Bon. Et la science nous promet une perfection de ce type-là, de sorte que la vie humaine pourra être confiée aux seules lois scientifiques pour rendre l'homme heureux. Mais lorsqu'on soumet le bonheur de l'homme aux lois scientifiques, on n'est pas très loin de la dictature, Dostoïevski le sait. Mais ça me donne l'occasion de vous faire découvrir ce texte incroyable. Donc alors c'est traduit soit les récits du sous-sol, soit le sous-sol, parce que le personnage qui est un personnage qui monologue, c'est un long monologue, dont d'ailleurs s'est inspiré très certainement Camus pour La Chute, c'est tout à fait la même ambiance, c'est d'ailleurs en gros la même histoire. Eh bien, ce personnage, donc, est une sorte de neurasthénique dérisoire qui affirme sa haine d'autrui et son droit à la folie. Il rejette le rationalisme, il rejette la raison, dans laquelle il finit toujours par sentir une pente totalitaire, tyrannique, et surtout il rejette ces fameuses lois scientifiques qui voudraient nous expliquer le mystère de l'homme. Il est comme Nietzsche, il est cousin de Nietzsche, de Rimbaud et de tant d'autres à ce moment-là. Petit extrait des carnets du sous-sol. Même au cas où l'homme serait vraiment une touche de piano, même si c'est là une chose qu'on lui démontre par les sciences naturelles et la mathématique, même là, il ne se rendra pas à cette raison. Il fera sciemment quelque chose contre, par pure ingratitude, en fait, rien que pour s'obstiner. Et s'il n'a plus de moyens, il inventera la destruction et le chaos. Il inventera toutes sortes de souffrances et il la soutiendra à sa position. Il lancera au monde sa malédiction et comme il n'y a que l'homme qui puisse maudire, ça c'est son privilège, ce qui le distingue le plus fondamentalement des autres animaux. Je gage qu'il atteindra son but avec cette seule malédiction, qu'il arrivera donc à se convaincre vraiment qu'il est un homme et pas une touche de piano. Si vous me dites que même cela, on peut le calculer sur des tablettes, des algorithmes, même le chaos, la nuit et la malédiction, que c'est la seule possibilité du calcul préalable qui arrêtera tout et que la raison reprendra le dessus, alors l'homme fera exprès de devenir fou pour perdre cette raison et s'obstiner dans son idée. Voilà, l'homme du souterrain qui dresse contre les lois scientifiques la liberté, l'affirmation de soi, la protestation contre toute forme de déterminisme. Le déterminisme, il peut être le fait des lois sociales, et c'est une seconde forme d'athéisme scientifique que j'appellerais cette fois-ci la religion du progrès social. On pourrait dire que c'est la version collectiviste ou la version politique du palais de cristal. C'est le rêve de l'utopie politique qui pourrait rendre les hommes heureux à partir d'un calcul bien mené. Ce rêve, il est évidemment le rêve de tous les utopistes, de tous les révolutionnaires naturellement, et il est décrit avec cruauté dans l'un des derniers romans donc, qui s'intitule « Les possédés » ou encore « Les démons ». Alors « Les démons », c'est une histoire épouvantable, il ne faut pas commencer Dostoïevski avec « Les démons », sinon on se tire une balle dans la tête. C'est une histoire épouvantable où grenouille des cercles révolutionnaires plus ou moins fanatisés, qui s'imaginent être en connexion avec d'autres mouvements qui en réalité n'existent que dans leur esprit, et qui vont tout de même s'adonner à une série de meurtres pour unifier donc leur groupe. Et parmi ce groupuscule d'idéologues, il y en a un qui surpasse tous les autres, il a beaucoup inspiré, enfin impressionné Camus d'ailleurs, il s'appelle Chigaliev. Et Chigaliev, c'est le froid... idéologue qui développe son raisonnement et il dit mon raisonnement est simple, je pars de la liberté illimitée de chacun et j'arrive au despotisme absolu. Voilà, ça c'est le chigalievisme, c'est-à-dire le fait de poser la liberté illimitée de chaque volonté finit toujours d'une manière ou d'une autre à arriver au contraire, c'est-à-dire à la fourmilière, au collectivisme, au totalitarisme. Alors bien sûr, beaucoup de gens ont dit que Dostoïevski avait, on est en 1871-70, que Dostoïevski avait pressenti le bolchevisme. Mais en fait, on verra que son œuvre ne se réduit, son prophétisme ne se réduit absolument pas à ce qui se passera en Russie par la suite. On peut dire qu'il a tout autant pronostiqué la fourmilière libérale et la société de consommation. Ça rentre tout à fait dans le même cadre. Qu'est-ce que la société de consommation, sinon brandir la liberté individuelle et se retrouver tous soumis aux lois du marché et consommer ce qu'on nous dit de consommer, de façon bien sage. En tout cas, vous voyez que face à cette première figure de l'athéisme, qui est une figure scientifique, Dostoïevski répond en brandissant la liberté individuelle. Et vraiment, la liberté, c'est le grand thème de Dostoïevski. Il affirme la liberté du sujet contre toutes les formes d'oppression, mais parce qu'il sait être cohérent, il sait que Si la liberté peut se dresser contre les lois scientifiques ou contre les lois sociales, elle devrait pouvoir se dresser aussi contre la loi morale. Et finalement, Dostoïevski, en quelque sorte, va être pris à son propre piège, c'est-à-dire en brandissant la liberté contre toutes les lois qui s'imposent à une conscience humaine, il doit bien se rendre compte qu'il se donne la possibilité de penser un amoralisme. C'est-à-dire que Dostoïevski annonce l'amoralisme nietzschéen, il le pense. Et voilà pourquoi, et ça va être la deuxième partie de cette trajectoire dans les cercles de l'athéisme, voilà pourquoi la deuxième figure de l'athéisme, que je vais parcourir un peu plus longuement, c'est l'affirmation libertaire. Si Dieu n'existe pas, je cite Ivan Karamazov, si Dieu existe, non c'est bien ça, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Sentence d'Ivan Karamazov, que Dostoïevski va mettre en scène, va explorer jusqu'au bout. C'est l'affirmation libertaire. On n'affirme plus que Dieu n'existe pas, que la science va remplacer Dieu. On affirme que si Dieu existe, il s'agit de rejeter son règne. Et on est vraiment dans un athéisme, cette fois-ci, contemporain. C'est donc la deuxième partie que j'intitulerai « La divinisation de l'homme ». Ou le surhomme, même si Dostoïevski n'emploie pas encore cette formule. Que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, au fond, la question reste la même. La question, elle est celle que posera Nietzsche quelques décennies plus tard. Que peut une liberté humaine ? Jusqu'où un homme peut-il exercer sa volonté de puissance ? Dostoïevski a dénoncé la prison scientifique du 2 et 2 font 4. Il a dénoncé les lois de la fourmilière sociale. Mais il reste les lois morales. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Mais c'est bien beau de dire qu'on va s'émanciper de la loi morale, encore faut-il être assez fort pour s'en émanciper, alors que la société l'assume, la loi morale. Et voilà pourquoi Dostoïevski donc va concevoir ce rêve fou de l'existence de quelques hommes supérieurs qui peuvent s'affranchir de la loi morale, et cela pour les bienfaits, le bienfait de l'humanité. Je vais passer en revue donc trois figures très importantes de l'auteur. La première, c'est encore une ébauche, c'est encore un brouillon, mais c'est un brouillon fort attachant, c'est le héros de Crime et Châtiment, c'est Raskolnikov. Alors, qui est Raskolnikov? Pour ceux qui n'ont pas lu ce magnifique roman, c'est un étudiant assez pauvre, très doué, très sensible et obsédé, dominé par une idée. L'idée qu'il existe dans la société des êtres supérieurs qui peuvent se reconnaître comme tels et qui, pour le bienfait de l'humanité, peuvent s'affranchir des lois morales ordinaires qu'il faut laisser à la masse. Ces êtres supérieurs, aussi bien ce sera Napoléon ou d'autres. Raskolnikov est un de ces êtres ambivalents, dédoublés. On le voit à quelques pages d'écart, voler au secours d'une famille misérable, du pauvre ivrogne Marmeladov et de sa fille Sonia, et leur donner tout son argent. Et quelques pages plus loin, assassiner donc une vieille usurière revêche, qui pour lui est un fléau de l'humanité, et vouloir poser cet acte amoral pour se montrer à lui-même qu'il fait partie de ces hommes supérieurs, qu'il a la force nécessaire, qu'il peut endurcir son cœur pour pouvoir s'affirmer lui-même comme un homme supérieur. Le problème, c'est qu'il va découvrir dans cette espèce de sentiment de déréliction, d'étouffement, d'intense solitude qui suit le drame, qu'il n'est pas un homme supérieur. Et voilà ce qu'il dit donc à la jeune fille qui sera l'occasion de son salut à la fin du roman, Sonia. C'est le passage numéro 2. « Que de luttes intérieures j'ai livrées. J'ai voulu tuer Sonia, tuer pour moi-même, pour moi seul. Je me suis refusé à me tromper moi-même en cette affaire. Ce n'est pas pour venir au secours de ma mère que j'ai tué, ni pour consacrer au bonheur de l'humanité la puissance et l'argent que j'aurais conquis. Non, j'ai simplement tué pour moi seul. Et dans ce moment-là, je m'inquiétais fort peu de savoir si je serais le bienfaiteur de l'humanité ou un vampire social. Une autre question me préoccupait. Il me fallait savoir si j'étais une vermine comme les autres, ou un homme, ou un surhomme. Si je pouvais franchir l'obstacle, si j'osais me baisser pour saisir cette puissance, étais-je une créature tremblante ou avais-je le droit ? De tuer, le droit de tuer, s'écria Sonia, abasourdie. Hé, Sonia, ne m'interromps pas. Je ne voulais te dire qu'une chose, c'est le diable qui m'a poussé à cela, et ensuite il m'a fait comprendre que je n'avais pas le droit d'y aller, car je suis une vermine comme les autres. Le diable s'est moqué de moi et me voici venu chez toi. Si je n'étais pas une vermine, t'aurais-je fait cette visite ? Écoute, quand je me suis rendu chez la vieille, je ne pensais tenter qu'une expérience, sache-le. Et vous avez tué, tué. Mais comment assassine-t-on ainsi ? Est-ce ainsi qu'on s'y prend pour commettre un crime ? Un jour, je te raconterai les détails. Ai-je vraiment tué la vieille ? C'est moi que j'ai assassiné. Moi et pas elle. Moi-même. Et je me suis perdu à jamais. Vous voyez qu'à ce moment-là du roman, quand Raskolnikov fait le premier aveu à cette femme, en réalité, il n'éprouve aucune culpabilité. Il éprouve simplement, il a simplement l'expérience de sa misère, de sa faiblesse. Et il faudra un long cheminement pour qu'il découvre, pour qu'il finisse par éprouver une véritable culpabilité, et il ne la découvrira, comme par hasard, que dans le regard aimant de cette fille, de cette femme. Il faudra qu'il fasse l'expérience de l'amour pour pouvoir faire l'expérience de la culpabilité. Mais Raskolnikov, donc à la fin du roman, trouvera sa rédemption. Et de ce point de vue-là, donc, d'une certaine façon, il n'est qu'un essai avorté. C'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, mais il précède, il annonce le prototype des grands négateurs qui est Ivan Karamazov. Ivan Karamazov, donc je vous en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure, c'est l'intellectuel des fils Karamazov. C'est quelqu'un qui, comme tous les personnages de cet auteur, est dominé par une idée fixe. Cette idée fixe, c'est que le monde est mauvais, qu'il faut rejeter ce monde, qu'il faut rejeter le créateur de ce monde, qu'il faut rejeter Dieu pour affirmer sa volonté de puissance. Alors, Ivan Karamazov a lui aussi sa rhétorique, et sa rhétorique, c'est le spectacle du mal, en particulier de la souffrance, et en particulier de la souffrance des innocents, c'est-à-dire la souffrance des enfants. Ivan, avec un certain sadisme, collectionne les coupures de journaux qui racontent les affaires les plus atroces qui sont survenues à des enfants battus, torturés, humiliés, etc. Et donc c'est un épisode célèbre des frères Karamazov. Il rencontre son jeune frère Alyosha, le séminariste, qu'il n'avait pas vu depuis des années, et l'entraîne dans une taverne de Saint-Pétersbourg pour lui ouvrir son cœur et lui dire pourquoi il est athée. Je ne lirai pas le texte parce que le temps tourne, mais Ivan dit à son frère, voilà, moi je serais plutôt croyant. Je crois que Dieu existe, mais il n'y a qu'une difficulté, c'est qu'il a fait une création qui est mauvaise. Il y a des enfants qui sont innocents et qui souffrent des martyrs. Eh bien, cette création, je n'en veux pas. Bien sûr, tu me diras, on peut pardonner, hein, mais qui a le droit de pardonner ? La mère de l'enfant, la mère qui a perdu son enfant, assassiné, elle peut peut-être pardonner au bourreau, hein, mais est-ce qu'elle peut pardonner la souffrance de son enfant ? Non. Qui a le droit de pardonner ? Allez, je lis quand même un passage. Pendant qu'il est encore temps, c'est le deuxième paragraphe, pendant qu'il est encore temps, je me refuse à accepter cette harmonie supérieure. L'harmonie supérieure, c'est de dire, bon, il y a de la souffrance, mais enfin, à la fin, tout sera jugé, tout sera récapitulé, et puis on sera dans le royaume. Eh bien, je me refuse à accepter cette harmonie supérieure. Je prétends qu'elle ne vaut pas une larme d'enfant, une larme de cette petite victime qui se frappait la poitrine et priait le bon Dieu dans son coin infect. Non, elle ne les vaut pas, car ces larmes n'ont pas été rachetées. Tant qu'il en est ainsi, il ne saurait être question d'harmonie. Or, comment les racheter ? C'est impossible. Je saute quelques lignes. Je ne veux pas que la mère pardonne au bourreau, elle n'en a pas le droit. Qu'elle lui pardonne sa souffrance de mère, mais non ce qu'a souffert son enfant déchiré par les chiens. Quand bien même son fils pardonnerait, elle n'en aurait pas le droit. Si le droit de pardonner n'existe pas, que devient l'harmonie? Y a-t-il au monde un être qui ait ce droit de pardonner? Alors retenez bien cette petite question, parce qu'elle est la clé de ce texte prodigieux, et c'est une clé que j'évoquerai qu'à la fin de l'exposé. Y a-t-il un seul être qui ait le droit de pardonner tout pour tous? Voilà, et on n'ira pas la suite. Alors l'attitude d'Ivan Karamazov ne manque pas d'ambiguïté. D'abord, son horreur du mal ne va pas sans une certaine fascination pour le mal. Une véritable fascination, une véritable obsession du mal. Et comme Camus le remarquait dans L'homme révolté, en étant fasciné par le mal, en se révoltant face au mal dans une attitude de fascination, on finit toujours par lui donner raison. Et d'ailleurs, il est frappant qu'Ivan Karamazov, comme Raskolnikov d'ailleurs, tourne assez vite à l'hallucination. Ce qui montre bien que l'angoisse du mal a toujours un certain rapport avec la folie. Et ça, c'est la première ambiguïté. À vouloir dénoncer le mal dans la révolte, il peut se faire que la révolte augmente le mal qu'elle prétend dénoncer. C'est ce que dit Camus. Deuxième ambiguïté, c'est que Ivan Karamazov, pour pouvoir rejeter le règne de Dieu, a besoin de Dieu. C'est pour ça qu'il dit de façon très contradictoire, je crois en Dieu. Il dit à son frère, je crois en Dieu, mais justement, ce royaume, je le rejette. Et donc, il est à la fois obligé d'affirmer l'existence de Dieu, et même d'affirmer l'existence d'un Dieu bon pour pouvoir, en quelque sorte, rejeter ce royaume. Et puis, on verra que, et c'est ce que j'ai laissé un tout petit peu affleurer, que la contemplation de ce mystère des innocents, de l'innocent livré au mal, nous amène très près de la contemplation de l'innocent, avec un grand I, livré au mal, celui qui seul peut porter la souffrance parce qu'il peut en effet tout pardonner. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de dédoublements à l'intérieur d'Ivan Karamazov. D'ailleurs, c'est le personnage le plus dédoublé de Dostoïevski. Je vous avais dit qu'il se dédoublait dans son demi-frère Smerdiakov, à qui au fond plus ou moins inconsciemment il fait assassiner son père. Il se dédouble dans le diable, puisque Ivan Karamazov a des hallucinations et il voit le diable. Très bonne allure, un homme de 40 ans, tout à fait moyen. Ça fait beaucoup penser à Bernanos et sous le soleil de Satan. Et Ivan Karamazov dialogue avec le diable en lui disant « Je sais que tu n'es qu'une hallucination, que tu es le produit de mon esprit. Je vais d'ailleurs te le prouver. » Voilà, encore un dédoublement. Et puis, un dernier dédoublement vous attend. Ça sera le dernier cercle de l'enfer. C'est la plus atroce créature d'Ivan Karamazov, de son cerveau malade, c'est le grand inquisiteur. Vous ne perdez rien pour attendre. Après Ivan Karamazov, une troisième figure de ces grands négateurs, mais qui est une figure beaucoup plus attachante, c'est Kirillov. Kirillov, on pourrait dire, c'est l'athée mystique. Kirillov, c'est un personnage des possédés, personnage qui a beaucoup impressionné Camus, je crois que je l'ai déjà dit. Personnage fort attachant puisqu'il aime la vie, il aime les enfants, il aime le Christ d'une grande affection. Mais Kirillov lui aussi est dominé par son idée fixe. Quelle est l'idée fixe de Kirillov? Elle est simple, quelque chose d'assez banal d'ailleurs si je la formule ainsi. Les hommes ont inventé Dieu pour pouvoir affronter la mort. Il est insupportable de penser que nous mourrons, que nous disparaîtrons à jamais, que nous ne sommes que des étincelles entre deux ténèbres. Et donc les hommes, par peur de la mort, ont inventé Dieu. Et Kirillov, lui, se présente comme celui qui a compris cela, mais qui se charge de le démontrer à ses frères humains en se sacrifiant littéralement pour eux. Et ce sacrifice s'appelle le suicide. Kirillov est un homme qui aime la vie et qui a décidé de se suicider pour montrer aux autres hommes qu'il ne faut pas avoir peur de la mort et qu'il ne faut pas inventer Dieu. Lecture, Dépossédé, texte 4. Je dois proclamer mon incrédulité, reprit Kirillov. L'idée la plus haute pour moi, c'est que Dieu n'existe pas. L'histoire de l'humanité tout entière me rend témoignage. Jusqu'ici, l'homme n'a fait qu'inventer Dieu pour vivre sans se tuer. Voilà toute l'histoire du monde jusqu'à nos jours. Moi seul, pour la première fois dans l'histoire du monde, j'ai refusé d'inventer Dieu. Comprends-tu maintenant que le salut pour tous consiste à prouver à tous cette pensée? Qui la prouvera? Moi? Je ne conçois pas comment un athée, sachant que Dieu n'existe pas, pourrait ne pas prendre conscience en même temps de sa propre divinité. Parce qu'en effet, tout est là, c'est toujours le fantasme de la liberté de toute puissance, c'est-à-dire Dieu n'existe pas et l'homme peut devenir Dieu. Aucune liberté ne le précède, donc l'homme peut ériger sa propre liberté à la place de celle de Dieu et donc se faire Dieu. Si tu en as conscience, tu es un roi et tu ne te tueras pas, mais tu vivras dans la gloire. Cependant, un seul doit se tuer, le premier, le prophète en quelque sorte. Sinon, qui commencerait et qui prouverait? C'est moi qui me tuerais pour commencer et prouver. Donc vous voyez que chez ce personnage de Kirillov, il y a quelque chose de, on pourrait presque dire de christique, en fait il faudrait dire d'anti-christique, puisque Kirillov a décidé de se sacrifier. Il se sacrifie pour l'amour de l'humanité, pour ses frères humains, mais il sait qu'en mourant, il devient Dieu. Il sait qu'en démontrant l'inexistence de Dieu, il devient Dieu lui-même. Il est donc une sorte de singe du Christ, une sorte de dédoublement du Christ, une sorte d'antichrist. Je conclus donc, après cette petite galerie de ces trois personnages, Raskolnikov, le débutant, Ivan Karamazov, le confirmé, et Kirillov, le mystique, pour dire que cet athéisme du surhomme ne débouche finalement que sur un dérangement profond de l'âme. N'empêche qu'il trouve chez Dostoïevski un retentissement très profond, fasciné lui-même par ses grandes négations. J'arrive à une troisième, ce que j'ai appelé un troisième cercle, hein, de cette descente aux enfers. Ce troisième cercle, au fond, c'est ce que peut devenir Ivan Karamazov, ce que peuvent devenir ces grands négateurs dans une étape ultérieure. Je veux parler de cette dissolution du sujet que va éprouver un des grands révoltés de Dostoïevski, qui s'appelle Nicolas Stavrogin. On a vu chez Ivan Karamazov que l'effet de la négation finit par se traduire par un refus de la création, du monde, de l'altérité des autres, une perte du sens de l'être, une forme de folie, finalement. Si on pousse le processus un peu plus loin, on arrive à une espèce de vertige du nihilisme qu'incarne, si on peut dire, puisque c'est un homme sans chair, Stavrogin. Alors Stavrogin, c'est le personnage central des possédés, hein, Kirillov, Stavrogin. Stavrogin, c'est l'ange noir des possédés, c'est le monsieur Wynne de Bernanos, si vous voulez. C'est un personnage qui est allé au bout de la décomposition intérieure. Il n'est plus qu'un monstre froid qui manipule les autres par pur ennui. Et d'ailleurs, Dostoïevski a mis en amont de son, en exergue de son roman, le fameux passage de l'évangile de Marc ou Luc, des démons de Génézareth. Vous savez, le Christ rencontre un homme possédé, hein, par des démons et il lui dit « Quel est ton nom ?» Vous savez, pour un juif, quel est ton nom? Ça veut dire « Qui es-tu ? » Hein, quel est le cœur de ta personne? Et le démon répond « Je suis Légion. » Je suis Légion, c'est-à-dire je suis un processus de dislocation intérieure, un éparpillement de l'être en de multiples individus séparés les uns des autres. Eh bien, c'est ce que Stavrogin, c'est le trajet qu'a réalisé Stavrogin, donc ce personnage intelligent, beau, séducteur, qui fascine son entourage. Les petits révolutionnaires dont je vous parlais tout à l'heure, il les fait graviter autour de lui alors qu'il se moque éperdument de la révolution. De toute façon, il se moque de tout. Désœuvré, il sème le mal. par pur ennui. Il multiplie les provocations publiques, les gestes absurdes. Il épouse une pauvre boiteuse folle et ensuite il la fait tuer. Son contact est glacial, il manipule tout le monde. En lui, tout désir s'est éteint. En lui, tout désir s'est éteint. Il ne peut plus qu'éprouver sa force vainement, une force terrible qui s'appuise en actes dérisoires. Il dit à un moment, je n'ai rien su détester. Il aurait pu dire, je n'ai rien su aimer, ça revient au même. Et alors, il y a un dernier sursaut chez ce personnage, c'est d'aller voir un moine à la fin du roman pour lui confesser toute sa turpitude. En particulier lui avouer à demi-mot qu'il a poussé une petite enfant au suicide, une petite enfant qu'il a outragée. Donc vous voyez qu'on est dans des abîmes d'horreur qui sont assez profondes. Et on se dit que peut-être la culpabilité le ronge. Et pour Dostoïevski, quand la culpabilité s'installe, le salut est proche. Le pire, c'est de ne plus se sentir coupable, évidemment. Est-ce que la culpabilité le ronge ou le vide désespérant de son âme? Et le moine lui dit, ce n'est pas en vain que l'on devient un étranger. Ce n'est pas en vain que l'on devient un étranger. Le moine voit en Stavrogine peut-être la dernière braise d'un désir de rédemption, d'un ultime désir de souffrance, hein, parce que la souffrance est toujours le canal vers le salut. Un ultime désir peut-être d'expier ses crimes. Mais malheureusement, ce désir de rédemption s'avère trop faible, trop inconsistant. Stavrogine est vraiment au point ultime de la décomposition et il n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est de se suicider. Texte 5, c'est l'entretien entre Stavrogine et le moine Tikhone. Mais peut-on croire au diable sans croire en Dieu? Demanda en souriant Stavrogine. Oh, c'est très possible. Et cela arrive souvent. Tikhone leva les yeux et sourit aussi. Et je suis certain que vous considérez une telle foi comme plus respectable que l'incrédulité complète. Stavrogine éclata de rire. Tikhone sourit de nouveau. Au contraire, l'athéisme complet est plus respectable que l'indifférence des gens du monde. Ah, comme vous y allez, vraiment vous m'étonnez. L'athée parfait occupe l'avant-dernier échelon qui précède la foi parfaite. Fera-t-il ou non ce dernier pas, c'est une autre question. L'indifférent, au contraire, n'a aucune foi, mais uniquement une mauvaise crainte, par moment, s'il est un homme sensible. Alors Stavrogine, qui a une certaine culture biblique, va se souvenir du passage de l'Apocalypse où Dieu vomit les tièdes. Vous avez lu l'Apocalypse, vous souvenez-vous, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, où est le livre? Je voudrais lire ce passage, vous le savez par cœur? Récitez-le. Il baissa vivement les yeux, mit ses mains à plat sur ses genoux et s'apprêta à écouter. Tikhone récita le passage. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véridique, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud. Oh, si tu étais froid ou chaud, mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirais de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien et tu ne sais pas que tu es misérable et pauvre et aveugle et nu. Donc vous voyez, le moine, avec son discernement spirituel, a senti le drame, la tragédie épouvantable de cet homme, de ce grand négateur qui n'a jamais pu éprouver sa force que dans des actes absurdes et qui finalement s'est perdu lui-même. Ce n'est pas en vain que l'on devient un étranger. Et peut-être qu'avec Stavrogine, alors je vous dis, hein, si vous voulez... Il y a peut-être d'autres personnages que je ne connais pas dans la littérature, mais vraiment son frère jumeau, c'est Monsieur Wynne dans le roman éponyme de Bernanos, hein, qui est tout à fait le même type de personnage, un monstre froid. Et jamais peut-être Dostoïevski a vu, hein, parce qu'il ne démontre rien, il montre, a vu la proximité entre athéisme et perte du sens de l'être. Perte du sens de l'être. Pour Stavrogine, rien ne vaut. Je vous avais promis 4 cercles de l'enfer, on arrive au 4e, rassurez-vous. Cette 4e figure terrifiante d'athée, vous allez voir que c'est une forme d'athéisme assez particulière, puisque c'est l'athéisme d'un homme d'église, c'est celui du grand inquisiteur. Le grand inquisiteur, une figure de l'antichrist. Il faut raconter l'histoire. Dans les frères Karamazov, Ivan a inventé une légende. La légende du grand inquisiteur. Texte sublime qui occupe peut-être 10 pages ou un peu plus, qu'il faut lire même si on n'a pas lu toute l'œuvre. Le grand inquisiteur, c'est le type même du grand despote qui organise la fourmilière dans le but de rendre les hommes heureux. Et il organise ce qu'on pourrait appeler une théocratie, mais à la limite, peu importe la justification religieuse ou autre, la fourmilière du grand inquisiteur, c'est la figure de toute forme de totalitarisme. Il veut rendre les hommes heureux et il organise une fourmilière. Et voici que, alors on est à Séville, en pleine inquisition espagnole, bien dramatisée par Dostoïevski, qui en bon orthodoxe n'aime pas trop les catholiques et l'inquisition. Et voilà que donc en plein Séville, déboule dans une ruelle le Christ lui-même, venu visiter son peuple, plutôt malmené. Le Christ fait quelques miracles, se fait reconnaître, et aussitôt le grand inquisiteur le fait saisir et mettre au cachot. De nuit, le grand inquisiteur, qui est un vieillard de 90 ans, osseux et émacié, vient rencontrer le Christ et vient lui parler. Et le Christ, d'ailleurs, ne dira pas un mot. Et le grand inquisiteur explique au Christ pourquoi il a rejeté son règne. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit quelque chose au fond d'assez simple. Il lui dit, voilà, tu voulais que les hommes te suivent librement. Tu n'as pas voulu les influencer par des prodiges. Quand on t'a dit de descendre de la croix, tu as refusé de descendre de la croix. Quand le diable t'a dit de transformer les pierres en pain dans le désert, rappelle-toi les tentations, tu as refusé de transformer les pierres en pain. Tu ne t'es pas laissé tenter parce que tu voulais que l'homme te suive joyeusement, librement. Tu as fait le pari de la liberté, mais l'homme n'est pas fait pour la liberté. La liberté est trop lourde pour lui. C'est un fardeau insupportable, quand bien même il n'a que ce mot à la bouche, d'ailleurs. Non, l'homme recherche le bonheur, et toi, tu lui as donné la liberté. Or, on ne peut pas avoir les deux. Celui qui veut assumer une liberté ne sera jamais heureux. Trop de tourments, trop de choix à faire, trop de discernement à chaque instant. Non, moi, le grand inquisiteur et mes troupes, nous avons organisé le bonheur de l'homme en lui confisquant sa liberté. C'est un texte génial, c'est un texte prodigieux et qui est d'ailleurs un commentaire des trois tentations du Christ au désert. Un commentaire très intéressant puisque finalement le grand inquisiteur dit à chaque fois que le Christ a refusé une tentation, c'était au nom de la liberté humaine. La tentation de matériel du pain, la tentation de faire un prodige, un grand miracle pour que l'humanité s'agenouille devant lui. Or l'humanité n'attend qu'une chose, c'est de s'agenouiller. La communion dans l'adoration, dit-il. Et le Christ n'a pas compris cette clé de la personne humaine, de la liberté humaine, parce que cette liberté est insupportable. Alors ce personnage du grand inquisiteur, évidemment, il est fascinant, parce qu'il nous interroge sur, effectivement, le bonheur et la liberté. Est-il vrai que entre être libre et être heureux, il faut choisir? Le grand inquisiteur, si vous voulez, c'est le petit Chigaliev, là, le petit révolutionnaire idéologue de dépossédé, déniaisé une fois pour toutes. Chigaliev disait, c'est bizarre, je suis parti de la liberté infinie de l'individu et j'arrive à la dictature. Et le grand inquisiteur dit, c'est normal, les hommes n'aiment pas la liberté, et donc si on veut les rendre heureux, il faut organiser la dictature. La liberté, elle engendre les tourments de l'âme. L'homme désire l'enfouissement dans le troupeau, la communion dans l'adoration. Alors ce qui est fascinant chez le grand inquisiteur, il y a beaucoup de choses fascinantes, mais ce qui est fascinant, c'est que lui-même est croyant, au sens où il sait que Dieu existe. Il connaît le Christ et il connaît la proposition du Christ, qui est la liberté. Mais il a constaté que les hommes étaient malheureux. Et donc, il s'oppose au salut, à l'œuvre du Christ, en sachant parfaitement que lui se sacrifie, parce que lui sera damné. Et il prend sa responsabilité en disant « Oui, je serai damné, mais moi, j'aurai rendu les hommes heureux et pas toi. » Encore une figure de l'antéchrist, mais là, c'est la figure suprême. L'antéchrist, c'est, vous savez, dans l'Apocalypse, ce personnage qui, à la fin de l'histoire, survient comme une sorte de singe du Rédempteur, se fait adorer, on se prosterne devant lui, etc., en le prenant pour le sauveur qu'il n'est pas. Et le grand inquisiteur, donc, endosse ce personnage de l'antéchrist pour rendre les hommes heureux, en leur confisquant leur liberté. Il est vraiment la figure de Satan dressé contre Dieu. Et d'ailleurs, Ivan Karamazov, qui a inventé le grand inquisiteur, dans ses hallucinations, rencontre Satan. Alors voilà, je suis arrivé au bout de cette descente dans les cercles de l'athéisme. Vous aurez compris, pour Dostoïevski, l'athéisme n'est pas une opinion. C'est pas « moi je serais plutôt croyant, moi je serais plutôt athée, moi je pense qu'il y a quelque chose ». L'athéisme, c'est comme la foi. C'est-à-dire, c'est un combat, c'est une aventure intérieure, c'est une disposition foncière de toute la personne qui vit cela dans un combat. On pourrait dire en conclusion que l'athéisme, sous prétexte d'émanciper l'homme, débouche finalement sur la négation de l'homme. Négation de sa dignité, de sa santé morale, comme on le voit chez Ivan, négation de sa consistance métaphysique, Stavrogin, qui n'est plus rien, une non-personne, négation finalement de sa liberté avec le grand inquisiteur. L'athéisme, c'est au fond le dédoublement radical. C'est l'homme qui veut être son propre Dieu, mais qui, par voie de conséquence, doit refuser non seulement Dieu, mais refuser la création et les créatures et ses frères et toute autre forme de liberté autre que la sienne. Ivan Karamazov disait « Si Dieu n'existe pas, tout est permis » et on pourrait ajouter « Mais rien n'a de sens ». Même la liberté que le surhomme exalte en vain, dont il va se dégoûter lui-même. Alors, pendant, je me donne 10 minutes pour achever ce propos, pour ne pas vous laisser dans cette impression évidemment terrifiante d'abandon, dans ce vertige de la négation que Dostoïevski a vraiment éprouvé dans sa chair, hein, qu'il a traversé et surmonté, pour vous indiquer un chemin lumineux qui fait de Dostoïevski un rescapé du désespoir. Il a exploré le labyrinthe de l'athéisme et de la négation avec d'autant plus de génie qu'il portait ce labyrinthe en lui-même. À la fin de sa vie, certains critiques disaient « Oui, mais Dostoïevski, c'est un bigot, c'est un... » Et il répondait « Ce n'est pas comme un enfant que je crois au Christ. C'est à travers le creuset du doute que ma louange est passée. » Je crois qu'on peut le dire. Parce que cette œuvre tourmentée s'achève dans un champ d'espérance. C'est la fin des frères Karamazov, si vous les lisez, qui s'achève dans un champ d'espérance. Mais quel est le chemin de cette espérance ? Je vous propose donc, pour comprendre finalement sur quoi débouche cette traversée de l'athéisme, je vous propose 2 pistes. La première piste, c'est celle de la liberté humaine, et la seconde, c'est la réponse à la question du mal. La liberté humaine. On a vu tout à l'heure que la première expression de cette liberté, c'était l'arbitraire du moi qui se rebelle face aux lois de la nature, aux lois sociales, aux lois morales, et face à Dieu, pour affirmer la divinité de l'homme. Et on a vu que ce rejet de toute norme, de toute loi intérieure, ne conduit qu'à un suicide complet. Le moine Sosimov, voilà un personnage dont je n'ai pas parlé, mais qui est important, c'est le maître de Alyosha dans les frères Karamazov. Le moine Sosimov, dans une page assez étonnante, dit la chose suivante. Chacun cherche à isoler le plus possible son moi. On veut éprouver en soi-même la plénitude de la vie, et pourtant, au lieu d'atteindre cette plénitude, tous ces efforts n'aboutissent qu'à un suicide total. Car au lieu d'une pleine affirmation de l'individu, on tombe dans une solitude complète. Car de nos jours, tous se sont fractionnés en unités. Chacun se retire dans son trou, chacun s'écarte des autres, se cache, cache ce qu'il possède, et chacun finit par repousser ses semblables et par être repoussé par eux. Voilà. Donc, c'est vraiment l'image de l'individualisme triomphant, si vous voulez, où finalement, autrui devient immédiatement un obstacle, une menace ou un ennemi. Eh bien, Dostoïevski nous oblige à aller plus loin. Il nous oblige à creuser plus profondément ce mystère de la liberté humaine. Il faut revenir à ce désir de liberté que chacun d'entre nous porte et creuser la vérité de ce désir. Et là, on trouvera un paradoxe. Oui, il y a un paradoxe du désir de la liberté. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, voudrait éprouver sa liberté, voudrait être bien sûr d'être libre et épanouir sa liberté. Et en même temps, chacun comprend qu'il n'est pas fait pour la solitude, mais qu'il est fait pour la relation, qu'il est fait pour la communion. Oui, l'homme est libre, oui, l'homme est fait pour être libre, mais le contenu de cette liberté, c'est l'amour. Cette liberté s'accomplira vraiment dans un acte d'alliance, et non pas dans la solitude de celui qui a rompu tous les liens. Vous voyez, si on lit Dostoïevski, du point de vue de l'ordre naturel, on a l'impression qu'il y a deux figures politiques. Il y a l'individualisme forcené, et puis il y a le collectivisme de la fourmilière. Et on n'en sort pas, c'est soit l'un, soit l'autre. En réalité, ces deux formules n'en font qu'une. Elles sont jumelles. Pensez au consumérisme, qui est en quelque sorte la réconciliation de l'individualisme le plus égocentrique avec les lois du marché, les lois de la fourmilière, la publicité, etc. Alors comment surmonter cette antinomie entre individualisme et collectivisme ? Eh bien la clé, c'est l'affirmation de la dignité absolue de la personne. Et la personne, c'est pas l'individu. Ah, la personne, c'est pas l'individu. La personne, c'est l'être singulier et relationnel. Alors, vous voyez, il y a toute une... Disons le mot. Hein, qui a inventé la notion de personne ? C'est sorti des laboratoires pendant les 4 premiers siècles de l'histoire de l'Église, des grands théologiens qui réfléchissaient sur la notion de personne trinitaire. Et qui sont arrivés à cette formule un petit peu étrange que la personne ne pouvait être comprise que dans un acte de relation. Les personnes divines ne sont compréhensibles qu'en relation les unes avec les autres. De sorte que la personne existe, mais elle existe relationnellement. Ce qu'ils n'imaginaient pas, les bougres, c'est que l'homme étant créé à l'image de Dieu, la conséquence logique, c'est que la personne humaine devait être comprise selon le même modèle. C'est-à-dire un centre d'autonomie et de liberté qui s'accomplit dans la relation avec d'autres. Voilà ce qu'est la personne. Eh bien, affirmer la liberté de la personne, c'est la seule manière de surmonter l'antinomie entre individualisme et fourmilière. Et c'est évidemment le christianisme qui l'a légué à la civilisation. Dostoïevski répète souvent dans ses carnets, « Si l'Occident court à sa perte, c'est qu'il a oublié le Christ. » Et c'est ça qu'il veut dire. Oui, le Christ donne la liberté. Mais ce n'est pas la liberté du surhomme qui se dresse contre toute forme d'héritage, c'est la liberté capable d'aimer. Oui, le Christ a bien compris l'homme, puisqu'il a compris que l'homme veut et la liberté et la communion. Grand inquisiteur dit, l'homme ne veut pas la liberté, il veut la communion. Et le Christ, lui, dit, l'homme veut la liberté dans la communion. Ça, c'est la première piste, que j'approfondis pas davantage. La seconde piste, c'est le mystère du mal. Bien sûr, ce mystère, j'emploie le mot mystère à dessein, c'est-à-dire une réalité jamais épuisable. Et oui, le mal des enfants, la souffrance des enfants, en effet, aucune formule théologique ne donnera une réponse satisfaisante. Mais ce qui est extraordinaire dans le passage de la révolte d'Ivan Karamazov, et du reste, je vais pouvoir en lire la fin, c'est qu'Ivan Karamazov pose la seule question valable, qui est de dire, tout ce mal, toute cette surcharge de mal, peut-elle être pardonnée ? Et quel être serait assez pur pour pouvoir porter, assez innocent, pour pouvoir porter toute la charge du mal de l'histoire et pour pouvoir la pardonner ? Et son frère, Alyosha, lui répond, « Mais tu as oublié, il existe cet être, c'est évidemment l'innocent. » c'est l'innocent, c'est le Christ, celui qui, étant absolument innocent, a pu porter dans sa passion toute la charge de mal de l'histoire de l'humanité. Alors, ce qui est très beau, c'est que c'est dans l'athéisme le plus violent, vous voyez, d'Ivan Karamazov, disant non, personne ne peut se charger du mal et pouvoir le pardonner, et ne peut le pardonner que qu'à fleur en filigrane et en contrepoint, la figure de l'innocent. En effet, il n'y a pas de réponse chrétienne au mystère du mal, il y a la présence du Christ. Face au mal enduré par ces petits innocents, existe-t-il un être qui ait le droit de tout pardonner? Demande Ivan et Alyosha de répondre oui, cet être existe. Tu l'as oublié, mon frère. Celui qui est absolument innocent, qui n'a aucune complicité avec le mal, peut se charger du péché et de la souffrance de tous. D'ailleurs, je n'ai pas parlé une seule fois de l'idiot dans tout cet exposé, on ne peut pas parler de tout, mais il est très significatif que Dostoïevski ait essayé d'inventer des Christs humains, c'est-à-dire ait essayé d'inventer des personnalités humaines suffisamment pures pour pouvoir porter le mal de manière immanente, si vous voulez, sans recourir à Dieu. Or, l'idiot est une de ces personnalités suffisamment pures, et d'ailleurs, l'idiot, effectivement, dévoile le mal autour de lui. Sauf que l'idiot, c'est le récit d'une épouvantable catastrophe. Cet homme qui veut se charger du mal qui sévit autour de lui va finalement aimer deux femmes à la fois, l'une par compassion, l'autre par véritable amour, hein, et provoquer catastrophe sur catastrophe, et finalement repartir à la fin du roman dans sa maladie mentale. Seul le Christ peut se charger de la souffrance du monde. Seul le Christ peut se charger de la souffrance du monde. Alors le chemin de cette espérance, vous l'aurez compris, il passe par le Christ, par ce Christ qui veut l'homme libre et qui est capable de se charger de son mal et de sa violence. Et cela tient en une formule, en une expérience qui est au cœur de l'œuvre de Dostoïevski. Je terminerai cette fois-ci avec cela, c'est l'expérience de la miséricorde. Comment ce salut peut-il prendre corps? Ce sera le grand message du moine russe, du starets Sosimov, le maître d'Alyosha. Sur son lit de mort, il donne un ultime enseignement qui est la grande réponse à la négation d'Ivan Karamazov. Et il faut lire aussi ce passage pour lui-même. Le moine nous dit d'abord « il faut aimer la vie ». Ivan Karamazov rejette la création, le moine lui dit « il faut aimer la vie ». Aimez toutes choses, vous aimerez toutes choses et vous accéderez au mystère des choses. Et pour sortir de la révolte, de l'enfermement, de cette solitude de la négation, il faut accepter d'être aimé, c'est-à-dire accueillir le Christ comme le visage même du pardon. Ce salut, il vaut pour les grands comme pour les médiocres, pour les ivrognes comme pour les princes, hein, et au fond d'une horrible taverne de Saint-Pétersbourg, l'ivrogne Marmeladov, dans Crime et Châtiment, s'exclame, si je trouve le passage, « Nous serons pris en pitié par celui qui a eu pitié de tous les hommes, celui qui a tout compris, l'unique, notre seul juge. Il viendra au jour du jugement et demandera « Où est cette fille qui s'est sacrifiée pour une marâtre cruelle, pour des petits-enfants qui ne sont point ses frères ? Où est la fille qui a eu pitié de son père terrestre et ne s'est point détournée avec horreur de ce crapuleux ivrogne ? Il lui dira « Viens, je t'ai pardonné une fois, que maintenant tous tes péchés te soient remis, car tu as beaucoup aimé. » Et il pardonnera à ma Sonia. Il lui pardonnera, je sais qu'il lui pardonnera, je l'ai senti dans mon cœur tantôt. Tous seront jugés par lui, les bons et les méchants, et nous entendrons son verbe. Approchez, approchez-vous aussi les ivrognes, approchez les faibles créatures éhontées. Et alors vers lui se tourneront les sages et se tourneront les intelligents et ils s'écrieront « Seigneur, pourquoi reçois-tu cela ?» Et lui dira « Je les reçois, ô sages, je les reçois, ô vous intelligents, parce que aucun d'eux ne s'est jamais senti digne de cette faveur. » Et il nous tendra ses bras divins, et nous nous y précipiterons, et nous fondrons en larmes. Seigneur, que ton règne arrive. Merci de votre attention.